Jean-Louis Laville, alors Jean-Louis Laville, le temps qu'il s'installe au pupitre, alors c'est quelqu'un qui, évidemment, c'est un nom très connu dans le monde associatif, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Vous avez publié pas mal d'ouvrages et de publications. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui est à disposition, je parlais de Vent d'Ouest, qui est un ouvrage sous votre direction d'ailleurs intitulé Association et action publique. Et vous êtes également titulaire d'une chaire de l'économie solidaire au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes sociologue et économiste de formation. Je ne vais pas faire l'intervention à votre place, Jean-Louis Laville, mais dans vos propos, on sentira sans doute que les associations ne sont pas un sous-service public.
Écoutez, je vais essayer d'être rapide pour qu'on ait assez vite un premier temps de discussion. Donc, je vais essayer de synthétiser ce que je voulais dire en quelques minutes. Donc, si j'interviens, c'est effectivement, comme ça vient d'être rappelé, parce que ça fait une trentaine d'années qu'avec d'autres sociologues et économistes, mais aussi des politologues, des gestionnaires, on essaye de travailler sur ce que sont les associations dans la société d'aujourd'hui. Et puis plus récemment, donc on vient de faire un travail avec des chercheurs, mais aussi des responsables associatifs sur association et action publique, en essayant de voir comment est-ce que la question se posait aujourd'hui dans différents territoires, dans différents secteurs en France, mais également en ouvrant, ce sont les deux dernières parties du livre, à d'autres réalités. Qu'est-ce qu'a changé le printemps arabe dans les rapports entre associations et actions publiques au Maroc et en Tunisie? Qu'est-ce qui s'est passé dans les rapports entre associations et actions publiques en Bolivie, en Équateur ces dernières années ou au Québec? Parce que je crois qu'on ne peut plus non plus réfléchir sans se passer de l'expérience d'autres pays qui peut aussi nous donner des éléments de réflexion et d'action pour ici. Je vais essayer donc de synthétiser le plus possible en reprenant ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que il faut pas, je crois, se voiler la face. Ça a été indiqué d'entrée de jeu. Le modèle associatif aujourd'hui est fragilisé. Mais ensuite, ça a été également souligné à l'instant. Ce n'est pas simplement le modèle associatif qui est fragilisé aujourd'hui. Ce sont nos sociétés qui sont fragilisées. Et je crois que notre réflexion doit s'inscrire dans ce qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire que nous avons un véritable problème. Je crois qu'on peut le préciser en indiquant que nous sommes au bout du modèle de développement qui a été commencé dans la deuxième partie du 19e siècle. C'est-à-dire que nous avons pensé depuis ce moment-là que nous allions trouver un équilibre en couplant de manière complémentaire et contradictoire, avec des débats sur les pondérations respectives, mais en couplant le marché et l'État. Et donc, tout notre raisonnement au XXe siècle a reposé sur ce dualisme, plus de marché ou plus d'État. Et en fait, ça nous a fait oublier ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire dans le premier XIXe siècle, si on reprend les termes de l'historien anglais Hobsbawm, que la solidarité telle qu'elle est apparue dans nos sociétés contemporaines n'est pas venue de l'État social. Elle est intervenue, je prendrai l'exemple français, mais il y a d'autres exemples convergents, en 1840, quand Leroux introduit le terme solidarité dans la philosophie française, en disant la solidarité, c'est ce qui succède à la charité en démocratie, c'est-à-dire comment, finalement, le fait d'assumer la liberté et l'égalité entre tous amène à raisonner différemment de la société précédente, puisque la charité supposait une dissymétrie entre celui qui donne et celui qui reçoit, et que la solidarité introduit l'hypothèse que l'on peut avoir des actions collectives visant le bien commun tout en étant en situation d'égalité avec d'autres acteurs. Et donc, cette solidarité démocratique, elle est, c'est d'ailleurs comme ça que se désignent les premières associations. Dès les années 1820-1830, elles sont à la fois fraternitaires et solidaires. Et ces deux termes sont à l'époque synonymes. Et donc il y a eu toute une construction de la solidarité avant l'État social. Et ceci, nous l'avons oublié. Et je crois que nous avons oublié l'associationnisme qui a précédé l'État social. J'en prends pour preuve un certain nombre de travaux très récents d'historiens qui, justement, réhabilitent toute cette histoire que nous avons oubliée parce que nous avons cru que tout ça n'était que rêverie naïve, utopisme, et qu'en fait, on avait atteint la maturité quand on avait stabilisé la société autour des relations entre État et marché. Ceci était une illusion. Nous le découvrons maintenant. Mais je crois que pour voir le type de crise à laquelle nous sommes confrontés, il est nécessaire aussi de revenir sur la période après la Seconde Guerre mondiale. Je crois que nous avons vécu, en fait, un premier temps qui est celui que l'on pourrait symboliser autour de la déclaration de Philadelphie, quand en 1945, après ce qui s'était passé d'horrible, on a voulu créer les conditions pour que ça ne se reproduise plus. Et à ce moment-là, ce texte international, mais qui avait été précédé par des rapports et suivi par d'autres déclarations qui allaient dans le même sens, disait « Le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social ». Et donc, on a eu toute une période dans laquelle on a essayé de trouver une nouvelle synergie entre le social et l'économique, dans laquelle l'économique était un moyen et la véritable finalité était le social. Ça a permis, avec les systèmes de sécurité sociale, avec tout ce qui s'est fait à cette époque-là, de donner une ampleur nouvelle à tout un ensemble de politiques publiques, en particulier dans le domaine social, mais pas seulement, qui ont amené à ce que les associations ont trouvé de nouvelles formes de financement public qu'elles n'avaient pas auparavant, à travers une régulation de contrôle qui était une régulation tutélaire, mais en ayant par ce biais les moyens d'une professionnalisation qui a été très importante jusque dans les années 60-70. Et donc on a eu toute une période dans laquelle, c'est vrai, les associations, à des degrés divers, mais de manière tendancielle, se sont un peu moulées sur le modèle du service public. C'est ce qu'on pourrait appeler, en reprenant les termes de tout à l'heure, un isomorphisme en termes un peu plus utilisés en économie, un isomorphisme non marchand qui faisait que les associations avaient pour modèle implicite quand même le modèle du service public. Et je crois que ce modèle de développement qui finalement ne faisait que aller plus loin dans ce qui déjà avait été mis en place depuis la fin du XIXe siècle, il a connu des crises et non pas une crise. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une succession de crises dont nous n'arrivons pas à sortir. Et cette succession de crises, on essaye de voir la crise en regardant derrière, c'est-à-dire en essayant de reconstituer le modèle antérieur. Et ce modèle antérieur, il est, je crois, obsolète, pour des raisons qu'on pourra détailler tout à l'heure, parce qu'il a connu, justement, là aussi je reste très schématique, à la fois une crise culturelle et une crise économique. Une crise culturelle d'abord, et je crois que dès les années 70, on voit bien que ce qui s'effrite, c'est une certaine idéologie du progrès qui avait été mise en place dès le second 19e siècle. On voit bien que de nouvelles questions sont posées. Il y a de nouvelles formes, de nouvelles dynamiques citoyennes qui commencent à se préciser dans la société et qui vont poser des questions nouvelles. Par exemple, comment est-ce que l'on peut arriver à concilier une expansion sans fin du point de vue économique et une planète limitée ? C'est la première fois qu'on pose cette question. Et cette question, nous ne l'avons toujours pas résolue. De la même façon, on va avoir des nouvelles associations qui, dès les années 70, vont mettre en cause le paternalisme un peu de l'État social, c'est-à-dire la façon qu'il avait de proposer des services sociaux, mais sans véritablement associer les usagers qui étaient concernés. Certes, ils étaient des bénéficiaires, ils étaient des assujettis, mais étaient-ils vraiment des acteurs des services qui leur étaient destinés ? Ce sont des demande de démocratisation, finalement, qui s'exprime par rapport au couple État-marché, en considérant que, finalement, ni le marché ni l'État ne résolvent toutes les solutions. Et donc, c'est bien une crise de valeur, une crise culturelle qui commence a émergé à partir de ce moment-là et dont nous ne sommes pas encore sortis, bien évidemment, puisque ces réponses, nous les cherchons toujours. Nous les cherchons toujours dans, par exemple, cette illusoire référence à une relance et à une reprise qui viendrait demain, qui nous est promis depuis 20 ans, pour dans un ou deux ans, et que nous ne voyons toujours pas poindre. Et donc, on est rentré après dans une autre phase qui est la crise que l'on a appelée la crise économique. Et cette crise économique, elle a amené à changer les règles par rapport à ce qu'avait été la déclaration de Philadelphie en 1945. Et ce qui a symbolisé les nouvelles règles du système international, c'est le grand texte qui a succédé à la déclaration de Philadelphie, c'est le consensus de Washington en 1989, qui a pris à contre-pied la déclaration de Philadelphie, puisqu'il a considéré que l'État social n'était plus la solution, qu'il était le problème. C'est-à-dire que ce qui a été mis en évidence dans le consensus de Washington, c'est qu'il y avait un excès d'interventionnisme public qui avait grippé la machine économique et que pour remettre cette machine économique en route, il convenait de déréglementer, déréguler, privatiser pour que l'État reprenne le rôle qui devait être le sien et non pas ce débordement qui avait caractérisé la phase d'expansion dite des Trente Glorieuses, du moins selon l'analyse qui était faite dans le consensus de Washington. Et donc on a eu à ce moment-là tout un ensemble de nouvelles façons d'organiser le service public de manière plus efficace ou efficiente, c'est ce qui était recherché, mais aussi ça a eu beaucoup d'implications sur le monde associatif. Ça a eu beaucoup d'implications parce que on a essayé aussi de mouler le monde associatif sur de nouvelles normes. Ça a été mentionné à l'instant, c'est depuis les premières expérimentations qui ont eu lieu en Grande-Bretagne dans le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, la substitution à la régulation tutélaire d'une régulation plus concurrentielle, basée sur des appels d'offres, basée sur des marchés publics. Et donc l'idée que pour donner plus de capacité à sortir de la bureaucratie, il était nécessaire de redonner les mécanismes marchands dans l'affectation des fonds publics aux associations. Et évidemment, ça s'est poursuivi à travers des nouveaux modes d'évaluation pour les associations, des modes d'évaluation qui ont été influencés par le mouvement qu'on a appelé au niveau international le New Public Management, la nouvelle gestion publique, c'est-à-dire une gestion qui essayait d'aller dans le sens de plus d'efficacité, plus d'efficience, finalement, de modéliser les formes de gestion associative sur ce qui était principalement l'entreprise privée. Et donc, il y a eu ces deux crises culturelles et crises économiques, et on voit bien que ces crises sont des crises qui continuent. Il me semble qu'il y a, dans la perspective qui était évoquée tout à l'heure, deux voies aujourd'hui vers lesquelles on peut aller dans les rapports entre associations et pouvoirs publics. Et je voudrais juste les mentionner à titre de début de notre débat. La première façon d'envisager les rapports entre associations et pouvoirs publics, on le voit dans un certain nombre d'évolutions qui sont en cours, c'est d'aller encore plus loin dans la modélisation du social sur le modèle privé. Et on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux outils qui vont dans ce sens-là, à la fois dans la gestion associative, mais aussi dans la façon dont on considère, dans un certain nombre de cas nationaux et aussi dans une partie du débat international, que les associations, c'est un peu ringard et que maintenant, ce qui devrait succéder pour être moderne et dynamique aux associations, c'est le social business. C'est une sorte d'entreprise à but social qui pourrait devenir ce que les associations n'ont pas réussi à faire en copiant beaucoup plus le modèle privé. C'est de nouveaux outils comme celui qui est introduit en France après d'autres pays, les social impact bonds, les investissements à impact social qui veulent aussi amener des investisseurs privés sur le social. Mais c'est aussi la nouvelle philanthropie telle qu'elle est mise en place. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de nouveaux dispositifs qui voudraient que l'on ait des outils privés sociaux pour résoudre le problème principalement de la pauvreté. Et à ce moment-là, on a à la fois une partie du monde associatif qui se moulerait sur le modèle de l'entreprise privée et une autre partie du monde associatif qui serait beaucoup plus justement dans un retour de la charité, dans un retour du caritatif. Et donc on aurait finalement à la fois des associations qui seraient encore plus professionnalisées sur le mode gestionnaire et à côté de ça des associations, disons, qui seraient vraiment pour les oublier, ceux qui ne peuvent pas suivre ce modèle managérial et qui seraient uniquement des associations de gestion de l'urgence sociale. Mais il me semble qu'on n'est pas condamné à cette évolution et qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'aller, ce que l'on voit aussi s'esquisser dans des cas très concrets dans différents continents, c'est-à-dire une nouvelle génération de l'action publique. Une nouvelle génération de l'action publique qui renonce à ce dont on est friand en France particulièrement, c'est-à-dire l'illusion selon laquelle des technocrates experts pourraient connaître les demandes d'une société complexe. Or, aucune société ne pourra être décrétée, comme c'était indiqué, ou aucune société ne pourra être dirigée du sommet parce que les sociétés sont de plus en plus complexes, justement. Et que par rapport à cette complexité de plus en plus forte, la seule réaction rationnelle, c'est d'aller vers une action publique qui ne soit pas le monopole des pouvoirs publics, mais qui soit co-construite avec l'action citoyenne telle qu'elle s'exprime dans des associations. Ce qui renvoie à plusieurs exigences si on veut véritablement que ce modèle puisse avancer. Première exigence, c'est une exigence interne aux associations, c'est-à-dire que les associations ne sont pas vertueuses par définition. Les associations doivent aussi aller vers des pratiques plus participatives, plus délibératives en leur sein pour que véritablement les citoyens puissent s'exprimer à travers l'action associative et que ce ne soit pas uniquement un discours d'auto-justification de la part des associations, mais une véritable pratique. Je crois que c'est la première exigence, que les fonctionnements internes des associations soient plus autour de formes participatives qui permettent d'associer l'ensemble salariés, bénévoles, usagers des parties prenantes de l'action associative. Ça veut dire aussi qu'il y a des exigences de regroupement interassociatif plus fortes, et ça, je crois que c'est quelque chose qui résonne particulièrement pour le mouvement associatif, c'est que je crois qu'il faut que les associations se fassent entendre plus fortement dans le débat public. Aujourd'hui encore, on leur rend rituellement hommage, mais après, quand on passe aux choses sérieuses, très souvent, on oublie les associations. Et je crois que les associations doivent s'imposer aussi beaucoup plus et ne pas, effectivement, tomber dans certains travers qui ont eu lieu dans le passé des relations clientélistes avec les pouvoirs publics, mais essayer de voir comment des regroupements interassociatifs plus forts peuvent voir les soucis qui sont les soucis partagés par plusieurs associations et que ceux-ci soient vraiment relayés de manière plus importante dans un débat public qui n'est pas encore assez irrigué par les points de vue associatifs. Et ça appelle aussi des exigences de la part des pouvoirs publics parce qu'on voit encore aujourd'hui qu'on n'arrive pas complètement, au moins au niveau national, à sortir d'une certaine segmentation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le domaine de la vie associative, par exemple, et puis de l'autre côté, il y a la loi d'économie sociale et solidaire. Alors il y a des éléments où ça converge. On a parlé tout à l'heure de la loi Hamon et de la circulaire Valls qui réhabilite effectivement, et c'est important, la légitimité pleine et entière de la subvention. Mais malgré tout, il reste un cloisonnement entre l'engagement civique, par exemple, dont on peut parler dans un certain nombre de cercles, et la dimension économique des associations. On voit bien qu'on a du mal à avoir des actions qui intègrent ces deux éléments, qui intègrent le fait qu'à la fois, c'est une personne sur quatre qui est adhérente à des associations, une personne sur dix qui est active dans une association, mais qu'en même temps, c'est 10% de l'emploi tel que ça a été rappelé tout à l'heure. Et je crois que c'est peut-être plus qu'au niveau national, sur le plan des territoires, qu'il est possible de mieux articuler ces dimensions, c'est-à-dire la dimension d'engagement civique et la dimension économique. La dimension, finalement, de cette vie quotidienne à laquelle s'intéressent les associations. Donc il me semble que nous avons un modèle possible, un modèle atteignable, un modèle vers lequel il y a déjà un certain nombre de pratiques qui nous orientent, qui est un modèle de co-construction de l'action publique. Ça sera toujours à la fois coopératif et conflictuel, mais qui permet de mieux faire travailler ensemble les associations et les pouvoirs publics. Simplement, ce modèle, il est exigeant. Ce que l'on a voulu montrer dans le livre à travers une multitude d'exemples, en particulier les exemples qui sont amenés par les responsables associatifs, c'est que ce modèle, il est déjà en marche. Évidemment, le chemin est encore long, mais je crois que si nous voulons arriver, si nous voulons refonder une société qui soit une société vivable, une société dans laquelle il y a un avenir possible pour nos enfants, je crois que nous sommes obligés de regarder dans ce sens-là qui sera vraiment innovant pour le 21e siècle. C'est-à-dire sortir du dualisme marché-État propre au 20e siècle et hérité du 19e pour aller vers un modèle plus diversifié, tripolaire, avec le marché, l'État, mais aussi pleinement, là encore, et entièrement, la société civile à travers les associations, parce que le dualisme ne suffit plus pour résoudre les défis de demain. Il faut aujourd'hui une société plus diversifiée, une diversité institutionnelle, et je crois que là, il y a une convergence des pratiques associatives et des travaux les plus récents dans les sciences sociales et économiques. C'est que je crois que le choix fondamental pour la société de demain, c'est soit d'aller vers une société de plus en plus uniforme, où il n'y aurait qu'un seul modèle, soit d'aller vers une société qui soit basée sur le pluralisme et qui soit beaucoup plus diversifiée, dans lequel, pour que l'on aille dans ce sens-là, il est nécessaire qu'il y ait des coopérations et des co-constructions nouvelles entre associations et pouvoirs publics. Voilà, j'ai essayé d'être court et donc on va pouvoir entamer un premier temps de débat. Merci.
Merci Jean-Louis Laville pour votre conseil.